これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gay savoir, philosophie de Charles Baudelaire.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Clès.
Et à la réalisation, Gilles Davidas.
Give me some new shit. Give me some new shit.
Charles Baudelaire n'est pas philosophe, il a mieux à faire et mieux à dire. Ses outils sont trop précis, plutôt la profondeur que la clarté ou l'ellipse que la démonstration. La poésie est à la philosophie ce que l'intuition est au concept et la métaphore à la simple comparaison, la même chose, mais en plus vif. Mais enfin, il arrive, quand elle est bien lunée, que, s'oubliant elle-même, la philosophie se surprenne à puiser dans la matière vitale d'un poème tantôt la meilleure version de ce qu'elle pense, tantôt l'accélérateur de particules qui soudain lui rend l'élan perdu. Et tel est Baudelaire, qui fait aux philosophes, à tous les philosophes, le cadeau des images et d'un langage surtout qui, pour saisir le réel, a enfilé son plus beau noir.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Lorsque vous m'avez proposé de faire une émission sur les fleurs du mal, dans le cadre de la semaine Mauvais Genre, le choix m'a paru excellent et pour ne rien vous cacher,
j'ai
immédiatement pensé au plaisir d'entendre Georges Clès nous lire ses textes, car c'est à peu près comme ça que je m'imagine la voix de Baudelaire. Mais en y repensant, quelque chose est venu faire une légère ombre au tableau. Est-ce que les poèmes de Baudelaire ont-ils encore quelque chose de mauvais genre? Ont-ils jamais été de mauvais genre? Car les fleurs du mal n'ont rien à voir avec les 11 000 verges d'Apollinaire ou non. Avec un mauvais polar new-yorkais. Donc, Baudelaire respire le classique. Et pas seulement dans les manuels scolaires, formidable usine à classique, mais en son temps déjà, Baudelaire n'était ni un romantique, ni même un décadent. Il écrivait simplement dans la langue de Racine. Jugez plutôt à la lecture que va nous faire Georges de l'Albatros.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Les fleurs du mal racontent l'histoire d'une chute. Et là, on voit l'albatros qui tombe des nuées et à ce mot de nuée, je ne peux pas ne pas penser à la célèbre comédie d'Aristophane, Les Nuées, qui se moque de Socrate.
Alors, il y a des tas de gens qui pourraient ne pas y penser, mais vous avez raison de le rappeler, parce que c'était présent dans l'esprit de Baudelaire. Effectivement, Les Nuées d'Aristophane ne sont pas pour rien dans la condamnation à mort de Socrate, qui le représentait comme assis dans une nacelle et regardant d'en haut avec l'indifférence qu'il mérite tous les phénomènes de ce monde d'en bas. Et effectivement, on peut considérer que le texte de Baudelaire est en un sens une autre manière de dire ce que Platon lui-même avait dit dans le Thé et Tête. Et c'est un texte, alors c'est intéressant parce que le texte du Thé et Tête, le passage dont je vais parler rapidement du Thé et Tête, est un texte qu'on connaît même quand on ne l'a pas lu. Parce que c'est un texte qui formule adéquatement et qui reprend d'ailleurs et qui se vante de le faire, le cliché du philosophe, enfin en tout cas en apparence, perdu dans ses nuées. Le cliché du philosophe à bonne distance du réel ou en tout cas de la fange et de la gangue matérielle. Alors c'est dans un dialogue donc entre Socrate et Théodore en l'occurrence, qui est un des interlocuteurs de Socrate dans le Thé et Tête, et Socrate explique que le philosophe, seul le corps du philosophe au fond, gît dans la cité, qu'il y réside en étranger, que sa pensée, qui tient tout cela pour peu de choses et même pour rien, éprouve du dédain pour les profondeurs de la terre, et la surface de la terre. Et Socrate, à ce moment-là, pour illustrer son propos, cite la légende de Thalès, que certains d'entre vous connaissent, qui, je le lis, occupé à mesurer le cours des astres et regardant en l'air, était tombé dans un puits. Et alors, ajoute Socrate, une servante Thrace fit cette plaisanterie, parfaitement dans la note et bien tournée, que dans son ardeur à savoir ce qu'il y a dans le ciel, il ignorait ce qu'il y avait devant lui, même à ses pieds. Et la même plaisanterie continue d'être bonne pour tous ceux qui passent leur vie dans la quête du savoir. Et un peu plus loin, Socrate dit qu'au fond, quand on demande, je le dis en substance, quand on demande à un philosophe d'assaisonner un plat ou d'organiser une plaidoirie, eh bien, le philosophe est impuissant, le philosophe est nul, il est inapte aux choses pratiques. En revanche, quand on lui demande de discuter avec les dieux, quand c'est lui, mon cher, qui tire quelqu'un vers le haut, quand tel ou tel accède à sa demande de sortir du « quel tort est-ce que je te fais à toi ou toi à moi » pour en venir à l'examen de la justice elle-même et de l'injustice, alors là, le philosophe excelle. Et Socrate conclut en disant qu'il n'y a pas à blâmer le philosophe pour son air de candeur, ni pour la nullité qui est la sienne, à chaque fois qu'il tombe dans les fonctions que remplissent les esclaves, c'est l'allure de qui ne sait pas emballer sa literie, ni assaisonner des paroles flatteuses. Mais l'allure opposée, c'est celle de qui est capable de remplir toutes les fonctions de ce genre avec adresse et rapidité, mais ne sait pas relever d'un geste libre son manteau sur l'épaule droite, pas plus qu'il ne met ses paroles au bon diapason, pour chanter comme il faut la vraie vie, celle des dieux et des hommes heureux. Et Platon ne fait ici que dire plus longuement ce que Baudelaire avait en un sens dit avant lui, en décrivant la trajectoire de l'albatros que ses ailes de géant empêchent de marcher.
Mais j'aimerais que vous reveniez, Raphaël, vous avez évoqué cette servante Thrace,
oui,
qui fait une plaisanterie et qui tient un peu le même rôle.
Dans la note et bien tournée.
Voilà, et qui, ouais, tient un peu le même rôle que ces marins qui se moquent de l'albatros. Mais quelle est la signification de son rire? C'est un rire correctif, un petit peu à la façon de Bergson ou...
Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire ça. En fait, la théorie du rire chez Baudelaire est assez proche de la théorie, d'un des aspects de la théorie que Bergson développe sur le rire, dans son essai du rire, dans son traité du rire. Le propos de Baudelaire et donc de Bergson aussi est de faire du rire une modalité de l'exclusion, au fond. Le rire comme un élément de moquerie. On se moque des autres et on les exclut par le rire qui les désigne. Et dans un essai qu'il a publié en 1855, donc 2 ans avant Les Fleurs du Mal, qui s'appelle « De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques », Baudelaire dénonce ce qu'il appelle une malignité latente qui se dissimule sous les éclats du rire. Pour le dire très simplement, le rire est toujours motivé par l'orgueil d'un moi spectateur. On rit de l'animalité des autres, ce qui permet de réconforter en soi l'idée d'humanité. Et en vérité, le rire témoigne, par l'orgueil qu'il exprime, d'une bêtise insondable et surtout très, très cruelle. Écoutez Baudelaire. « Qu'y a-t-il de si réjouissant dans le spectacle d'un homme qui tombe sur la glace ou le pavé, qui trébuche au bout d'un trottoir, pour que la face de son frère en Jésus-Christ se contracte d'une façon désordonnée, pour que les muscles de son visage se mettent à jouer subitement comme une horloge à midi ou un joujou à ressort? On trouvera, au fond de la pensée du rieur, un certain orgueil inconscient. C'est là le point de départ. Moi, je ne tombe pas. Moi, je marche droit. Moi, mon pied est ferme et assuré. » Or, c'est exactement de cette manière que l'albatros fait rire les hommes d'équipage qu'on aimerait bien voir essayer de voler.
Mais tout de même, est-ce que, vous allez le convenir mieux que personne, Raphaël, le philosophe est-il si risible que ça? C'est tout de même un peu un cliché.
Oui, c'est un cliché qu'il faut examiner, et c'est là peut-être que l'exercice de littérature comparée, au fond, auquel on se livre là très rapidement entre Baudelaire et Platon, peut-être fécond, parce que ce que le poème de Baudelaire permet de penser, c'est que précisément c'est un cliché qu'il faut examiner plus avant pour comprendre ce qu'on n'entend pas tout de suite. Que dit Socrate dans le Théétète et que dit Baudelaire dans l'Albatros? Non pas que le philosophe, pour Platon, ou l'artiste, pour Baudelaire, s'abstrait du monde, mais qu'il s'en désintéresse. C'est pas tout à fait la même chose. Il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, mais d'en éloigner de soi tout ce qui nous empêche de le voir mieux. L'attention du poète, comme l'attention du philosophe, est tournée, Paola, non pas vers un ailleurs, vers un autre monde, n'importe où sauf dans le monde, comme dirait Baudelaire en anglais, mais vers un ici épuré de tout ce qui l'opacifie. C'est un monde, c'est une formule de Skutner, je crois, c'est un monde extraordinaire, le nôtre, mais qu'on aurait dépouillé de sa gangue d'illusions. Le travail du philosophe ne le situe pas dans une tour d'ivoire. La tour d'ivoire, c'est l'apparence, c'est la surface, au fond, de ce cliché. en réalité, ce que fait le philosophe, c'est qu'il a remplacé un œil par un microscope et l'autre œil par un télescope. Et c'est pour ça qu'il ne voit pas clair. C'est pour ça qu'il boite. C'est pour ça qu'il tombe. Le philosophe n'a la tête en l'air que parce qu'il est en train de calculer les distances entre les étoiles. Et quant à l'albatros, il ne vole au-dessus du navire que parce qu'il est à portée de main, si vous voulez. Il est facile de l'attraper. Ça n'est pas le septième ciel ou ça n'est pas l'au-delà où volette ou s'aventure l'albatros. C'est un ciel qui nous est familier, c'est un ciel à portée de main. Et je crois qu'il est très important de noter ici qu'au fond, chez Platon, comme chez Baudelaire, le propos n'est pas de dire que le philosophe doit s'éloigner du monde ou doit s'affranchir du monde. Il doit juste s'éloigner de ce qui, en lui, le prive, justement, du monde véritable, qui n'est pas un autre monde, mais qui est le nôtre, qu'on aurait dépouillé des préjugés qui l'opacifient.
Mais cette figure du désintéressement donc, qu'on rapproche de l'attitude du philosophe, on la trouve aussi, par exemple, dans Don Juan aux Enfers.
Ah oui, dans Don Juan aux Enfers, ça marche très bien. Ça.
Le calme héros.
Le calme héros. Courbé sur sa rapière, Georges.
Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine, et lorsqu'il eut donné son obole à Caron, un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène, d'un bras vengeur et fort, saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, des femmes se tordaient sous le noir firmament, et, comme un grand troupeau de victimes offertes, derrière lui traînait un long mugissement. Sganarelle, en riant, lui réclamait ses gages, tandis que Don Luis, avec un doigt tremblant, montrait à tous les morts, errant sur les rivages, le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, près de son époux perfide et qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême sourire où brilla la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait à la barre et coupait le flot noir. Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, regardait le sillage et ne daignait rien voir.
Alors, dans le dernier vers qu'on a entendu, il y a quand même une...
Il faut quand même insister sur le fait que c'est sublime, si vous voulez. C'est aussi la raison pour laquelle vous entendrez peut-être plus de poésie que de commentaire. Il y a un moment où l'interprétation doit remplacer le commentaire, si vous voulez, en particulier en matière de Baudelaire. Donc, on a quand même l'intention de vous donner à entendre ici beaucoup de textes et d'interrompre nos discussions par des textes même chantés. Pardon, Paola.
De m'avoir interrompu, il n'y a pas de souci. Alors, oui, la contradiction que je voulais pointer, c'est celle que Don Juan, pour ne rien voir, regarde le sillage. Donc, en se tournant vers le souvenir, ça lui permet de ne rien voir.
Oui, c'est un paradoxe, effectivement.
Il regarde et ne voit rien.
C'est un paradoxe, parce qu'il semble indifférent aux récriminations. C'est la figure d'un homme qui semble indifférent aux récriminations. Il s'en fout des femmes avec leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, de Sganarelle en riant qui lui réclame ses gages, de Don Luis avec un doigt tremblant, même de Caron, il s'en fiche, la chaste et maigre Elvire, dont il faisait peu de cas de son vivant. Il en fait encore moins après. C'est un homme indifférent aux récriminations. C'est un homme qui vit sans culpabilité, enfin qui meurt sans culpabilité. Mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, il s'affranchit du regard d'autrui en ayant les yeux fixé sur le sillage de sa propre barque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans la mélancolie d'un homme qui regarde derrière, ou la nostalgie d'un homme qui regarde derrière, et dans la fermeté d'esprit du héros que les autres laissent froid. C'est un homme courbé sur sa rapière qui contemple la trace qu'il laisse, et c'est un héros impassible et imperméable à la culpabilité comme au gémissement. Et c'est une image qui en montre deux en une. Et on a ici un processus de densification extraordinaire. Au fond, nous avons deux comportements qui ne sont pas antithétiques, mais qu'on accole rarement et qui produisent une étrange figure. Et au fond, on est là en présence, et c'est en cela que la poésie est plus vive peut-être que la philosophie, on est là en présence d'une création qu'aucune cohérence ne pourrait produire, ne s'aventurerait à produire. Et à cela d'ailleurs s'ajoute le fait que c'est en regardant le sillage qu'il ne voit rien, et c'est parce qu'il méprise ou qu'il néglige le monde qu'il ne veut pas le voir. Mais c'est quand même étrange ce geste de regarder en arrière, Paola, moi je trouve.
Oui, mais c'est courant dans l'attitude de l'artiste que propose Baudelaire, puisque l'artiste est toujours, c'est un mot qu'il utilise dans ses critiques d'art, mnémonique, c'est-à-dire que c'est à partir du souvenir qu'il peut créer. Donc, après, pour le philosophe...
C'est dans... Voilà. À une charogne. On va pas le lire en entier là. On va essayer, d'ailleurs, on essaie de vous donner à entendre des textes qu'on connaît peut-être moins que d'autres. Je ne parle pas de l'Albatros, mais pour les autres textes, ils ne sont pas moins beaux, mais bizarrement moins connus. Mais dans À une charogne, un moment, donc il décrit ce cadavre en putréfaction qui vit en se multipliant. Et à un moment, il dit « Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir ». Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit, au fond, si Don Juan fixe le sillage, à la façon du poète, si le poète ne quitte pas le passé des yeux, c'est que le passé lui-même est mobile. Le passé est mouvant, le sillage est volatile. Le passé n'a rien de fixe, hein, puisqu'on le corrige et qu'on le rectifie par l'écriture. Vous savez, j'ai envie pour une fois de citer Proust et le passage où Albertine est morte et le narrateur enquête sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle était, sur ses mœurs notamment, savoir si elle a effectivement couché avec une blanchisseuse en lui mordant les doigts de pied, enfin autant de choses décisives, surtout quand il s'agit d'un mort. Mais on comprend en lisant Albertine disparue l'importance que ça peut avoir, parce que le narrateur dit à un moment « Jadis, je songeais sans cesse à l'avenir incertain qui était déployé devant nous. J'essayais d'y lire. Et maintenant, ce qui était en avant de moi, comme un double de l'avenir, aussi préoccupant qu'un avenir, puisqu'il était aussi incertain, aussi difficile à déchiffrer, aussi mystérieux, plus cruel encore, parce que je n'avais pas, comme pour l'avenir, la possibilité ou l'illusion d'agir sur lui, et aussi parce qu'il se déroulerait aussi long que ma vie elle-même, sans que ma compagne fût là pour calmer les souffrances qu'il me causait, ce n'était plus l'avenir d'Albertine, c'était son passé. »
La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais crispé comme un extravagant. Dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine, le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Les phares. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux sourire, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, Triste hôpital tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière, en pleurs, s'exhale des ordures et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs et se lever tout droit des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres, comme des papillons, errent en flamboyant, des corps frais et légers, éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ses malédictions, ses blasphèmes, ses plaintes, ses extases, ses cris, ses pleurs, ses tédéum sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est, pour les cœurs mortels, un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.
J'ai un peu de mal à reprendre la parole après la lecture.
Débrouillez-vous.
Après la lecture de Georges, on voit vraiment bien en écoutant ce poème qu'il n'y a que les poètes qui peuvent parler de peinture. Et pour faire une remarque...
C'est peut-être plus vrai que l'inverse, d'ailleurs. Enfin bon, allez-y.
Pour faire une remarque, donc on a ici une histoire de la peinture, de l'art, qui n'est pas linéaire, mais dont on remarque au passage qu'elle aboutit à Delacroix, le seul peintre français qui est nommé. Et ça m'a rappelé une phrase de Bergson dans L'intuition philosophique, qui est un passage de la pensée et le mouvant, et dont il serait bien qu'on fasse une émission, Raphaël.
De l'intuition philosophique.
Oui, bien sûr.
Oui, avec plaisir. Oui, bien sûr, c'est un très très beau texte. C'est dans La pensée et le mouvant, c'est un texte magique de Bergson sur ce que c'est qu'une intuition philosophique. C'est là qu'il dit, en ce point, il y a quelque chose de simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie, ce qui promet une émission bavarde. Mais bon.
Exactement. Mais il dit aussi, en parlant de l'histoire de la philosophie, alors j'ai noté la phrase, hein, parce que je ne la connais pas par cœur, mais il dit... Le philosophe eût pu venir plusieurs siècles plus tôt, il aurait eu affaire à une autre philosophie et à une autre science. Il se fût posé d'autres problèmes, il se serait exprimé par d'autres formules. Pas un chapitre peut-être des livres qu'il a écrits n'eût été ce qu'il est, et pourtant, il eût dit la même chose.
Ah oui, vous avez raison. C'est une... Vous voulez dire, en fait, oui, vous avez raison. Parce que, en fait, ce que fait Bergson dans l'intuition philosophique, on fait un petit détour par Bergson, c'est qu'il décrit au fond une histoire de l'art qui n'est pas linéaire, qui ne progresse pas.
De la philosophie. Bergson.
J'ai dit quoi ?
De l'art, mais bon.
D'accord. Oui. Enfin, s'il y en a un pour qui c'est presque la même chose, c'est bien Bergson. Et peut-être aussi pour Baudelaire d'ailleurs. Il décrit une histoire de la pensée qui ne progresse pas, qui avance sans progresser, qui évolue sans progresser, par saccades. Par rupture violente, par catastrophe géologique, par cataclysme au fond. C'est ce que fait Bergson, vous avez tout à fait raison de l'associer, de l'accoler à Baudelaire ici, parce que ce que propose Bergson dans son texte, donc l'intuition philosophique, c'est, vous l'avez lu, c'est l'image de la
poussière.
Oui, de la poussière, c'est-à-dire que c'est le même tourbillon qui, d'un siècle à l'autre, remue des poussières différentes. Donc, les poètes ont des folklores différents, les philosophes ont des outils différents, mais au fond, l'intuition est la même. Et pour Bergson, ils n'ont jamais dit que la même chose, et la grandeur de la philosophie, et précisément dans cette répétition qui n'en est pas une, qui est au contraire un approfondissement. Et si on applique le modèle bergsonien de l'histoire de l'art à ce que Baudelaire raconte ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le miroir profond et sombre de Léonard de Vinci, le triste hôpital tout rempli de murmures de Rembrandt, le lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs de Michel-Ange, les colères de boxeurs et les impudences de faune de Puget, le carnaval où bien des corps illustres versent la folie à ce bal tournoyant de Watteau, le cauchemar plein de choses inconnues de Goya, le lac de sang hanté des mauvais anges de Delacroix. Et effectivement, ce sont les poussières. Mais au fond, il y a une intuition commune. C'est ce qu'il termine, c'est ce qu'il dit pour finir. C'est ce cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un cri, c'est un ordre, mais qui prend des formes différentes. Et au fond, ces formes sont présentées comme autant de chatoiements. Donc c'est un tableau, en vérité, ce poème. C'est un tableau des peintres. C'est un tableau des peintres eux-mêmes, dont chacun, au fond, endosse la responsabilité d'une teinte sous l'œil de Baudelaire, me semble-t-il. Mm-hmm. Vous avez raison.
Oui, ben, on a parlé de l'histoire de l'art. On pourrait parler aussi du processus artistique qui est exprimé dans Les Mauvais Moines, dans Le Mauvais Moine, pardon.
Il le dit ailleurs aussi, mais dans Le Mauvais Moine, il y a un passage très étonnant.
Il faut que les auditeurs fassent bien attention au dernier tercet du sonnet qu'on va entendre.
Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles étalaient en tableau la sainte vérité dont l'effet réchauffant les pieuses entrailles tempérait la froideur de leur austérité. En ces temps où du Christ florissaient les semailles, plus d'un illustre moine, aujourd'hui peu cité, prenant pour atelier le chant des funérailles, glorifiait la mort avec simplicité. Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, depuis l'éternité je parcours et j'habite, rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. Ô moine fainéant, quand saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère le travail de mes mains et l'amour de mes yeux ?
Il faut donc cesser de se plaindre et se mettre à créer, c'est ça ? C'est l'alchimie qui est faire de ces plaintes une
création. Saurais-je donc faire du spectacle vivant de la triste misère le travail de mes mains et l'amour de mes yeux ? C'est une autre façon, autrement belle, de dire que le propre de l'art et de la poésie est d'extraire l'éternité du transitoire.
De prendre de la boue et d'en faire de l'or.
Oui, de prendre de la boue et d'en faire de l'or, ou de prendre le mal et d'en faire des fleurs. De prendre de la boue et d'en faire de l'or, c'est une ambition. Alors, Baudelaire est la quintessence, la formulation même de cette ambition. Il est au plus près de cette ambition, qui est presque un lieu commun de la démarche artistique, mais dont ici, il délivre la formule parce que, au fond, le mauvais moine a ceci de très particulier. Il y a deux éléments qui me semblent très intéressants dans ce texte. Le premier, c'est celui-là, c'est-à-dire, c'est au fond l'exigence qu'un poète a vis-à-vis de lui-même, qui est de trouver ses douleurs plus intéressantes que douloureuses, de s'intéresser à ce qui le fait souffrir. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Hein. On l'a entendu tout à l'heure, enfin, vous l'avez entendu tout à l'heure, nos auditeurs ne l'ont pas entendu, mais le public du Théâtre du Rond-Point y a eu droit tout à l'heure sous la lecture de Georges Clès. Quand saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère le travail de mes mains et l'amour de mes yeux ? En d'autres termes, quand saurais-je, au lieu de me plaindre sur mon sort, métamorphoser ce que je subis en un sonnet. C'est un texte d'ailleurs qui rappelle un peu ces sonnets magnifiques de Du Bellay sur l'inspiration qui le déserte, si vous voulez, où on se dit voilà un texte où il parvient à ses fins, mais c'est un texte dans lequel il se plaint de n'y pas parvenir, il se plaint de ne pas y réussir. Et c'est un texte pour ça tout à fait extraordinaire. Et l'autre chose extraordinaire dans Le Mauvais Moine, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, Paola, mais les deux tercets finaux, « Mon âme est un tombeau que mauvais cénobite depuis l'éternité, je parcours et j'habite. » C'est bizarre, non ?
Oui, parce qu'on peut se demander, du coup, qui dit « je » ? Est-ce qu'il y a l'âme et il y a quelque chose en plus de l'âme, au sein de l'âme ?
C'est un être qui habite son âme.
Il y a plusieurs poèmes « Le chat », mais dans ma cervelle...
« Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement,
et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, claires fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. En d'autres termes, quand on fouille, on découvre en soi non pas un moi, mais un autre, dont le moi n'est que la surface ou l'apparence. Nous sommes riches de l'altérité que nous portons en nous. Et personne plus que le poète, ou peut-être plus que l'illuminé au fond, sous toutes ses formes, parce que le père de cette idée-là, c'est saint Augustin. L'inventeur de la notion d'intime comme altérité, c'est Augustin, c'est dans les Confessions. Et au fond, quand Baudelaire croise, non pas lui-même, mais l'autre, si vous voulez, il y a deux personnes en lui, et la vraie, c'est l'autre. Quand il croise cet autre qui le compose, qui le constitue, qui le nourrit, qui le juge parfois, ou qui lui mange le cœur, quand il croise cette personne-là, au fond, il croise l'inspiration qu'il porte en lui. Oui, l'intime, l'altérité, c'est-à-dire l'inspiration dont il est capable. Vous avez vu Abfab ?
C'est une série avec deux londoniennes, c'est ça ?
C'est deux londoniennes.
Patsy et...
Bravo, Paola. Patsy et Edina. Voilà, qui rappellera d'excellents souvenirs à certains de nos auditeurs. Oui, Abfab, c'est hilarant. C'est Edina et Patsy, elles sont totalement déjantées l'une et l'autre. Sont deux quadragénaires totalement dingues. L'une, Edina, a un peu d'argent. Elle a une agence de relations publiques. On se demande par quelle bizarrerie ça fonctionne et comment elle arrive à vivre. Mais elle a du blé. Elle a de quoi faire. Elle a pour meilleure amie une Patsy, qui est une espèce de chose...
Nympho,
ça c'est pas grave. Ça, c'est, elle est anorexique, nymphomane. Elle s'endort avec une cigarette pour pouvoir l'allumer plus rapidement au réveil. Donc elle s'endort avec la clope vissée à son rouge à lèvres. Et bref, elles sont complètement allumées toutes les deux. Et alors, ce qui est très drôle dans Abfab, c'est le rapport évidemment entre Edina et sa fille Saffron, qui évidemment, elle, est toute rigoureuse, stricte, parfaite, habillée comme une collégienne, impeccable. Bon, et il y a une scène dans Abfab où Edina, qui mange, qui boit, qui est dans la débauche totale, qui pèse 50 kilos de trop, s'indigne à un moment et elle dit « Il y a en moi une jeune fille mince qui piaffe ». Et qu'est-ce que vous voulez ? Moi, si vous voulez, cette altérité dont l'individu est riche, quand il s'examine un peu, trouve ici une formulation baroque et finalement pas absurde, je trouve. Tiens, on va entendre un autre poème de Baudelaire cette fois-ci, Sed non satiata. C'est Georges Chélon qui le lit. L'autre Georges.
Bizarre déité, brune comme les nuits, au parfum mélangé de musc et de havane, œuvre de quelque obile Faust de la savane, sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs minuits. Je préfère aux constances, à l'opium, aux nuits. Élixir de ta bouche, où l'amour se pavane. Quand vers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme, ô démon sans pitié, verse-moi moins de flammes. Je ne suis pas le Styx pour t'embrasser 9 fois. Hélas, et je ne puis, mais gère libertine, pour briser ton courage et te mettre aux abois. Dans l'enfer de ton lit, devenir Proserpine.
Il y a aussi dans Les Fleurs du Mal...
Vous pouvez parler plus fort, pardon, c'est bon.
une autre figure de l'intimité, mais plus ambiguë, c'est celle que Baudelaire appelle l'ennemi, et que Georges Clès, cette fois, va nous lire.
Voilà, l'autre Georges.
Le vrai.
Le vrai, donc.
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait de tels ravages qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'on creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, ô douleur, le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie.
Après, on a parlé du processus tout à l'heure avec le mauvais moine, et après être venu à bout de ce processus et que les poèmes sont là, mais qu'est-ce qu'il reste de l'âme du poème qui est comme ce sol lavé comme une grève ?
Oui, c'est le problème que pose ce poème, me semble-t-il, c'est au fond le problème qui va avec le fait de vivre en deux temps. Brantôme, ou même Proust d'ailleurs, en un sens, sous réserve, ont conçu leur œuvre de cette manière. Ils ont commencé, ou Casanova, ont commencé par vivre, et puis après, arrive le temps du répit, arrive le repos du guerrier, ou le repos du séducteur, et le moment où l'on raconte ce qu'on a fait, où l'on se tourne, où on regarde le sillage, et où on se met à le décrire, au fond. Parce que le sillage, que voulez-vous, il est derrière. Et il est volatile, mais il est derrière soi, et reste à savoir ce qu'on peut garder comme essence divine de ces amours décomposés. Donc c'est ce travail rétrospectif que décrit ici l'ennemi. Mais le problème, c'est que ce qu'il dit ici, quand il parle de ces fleurs nouvelles qu'il rêve, quand il se demande si elles trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur, au fond, le problème qu'il se pose, c'est le problème d'une écriture rétroactive, le problème d'une écriture après coup, le problème d'une écriture dont nous ne sommes pas le contemporain, dont l'auteur n'est pas le contemporain, le problème d'une écriture prise dans un souvenir. Et c'est un problème que Nietzsche pose à la fin de Par-delà bien et mal. Pour remettre les choses dans leur contexte, Nietzsche écrit Par-delà bien et mal, qui est peut-être son meilleur livre, enfin, comme tous les autres, et dans ce texte, le dernier paragraphe de ce texte, comme Nietzsche excelle dans l'art de penser contre lui-même, il prend il finit Par-delà bien et mal par le paragraphe 296 qui dit ceci, qui dit: hélas mes pensées, qu'êtes-vous devenues maintenant que vous voilà écrites et peintes? Il n'y a pas longtemps vous étiez si diaprée, si jeune, si maligne, pleine de piquants et de secrètes épices qui me faisaient éternuer et rire. Et à présent, déjà vous avez perdu la fleur de votre nouveauté, et quelques-unes d'entre vous, je le crains, sont en passe de devenir des vérités. Elles ont déjà l'air si impérissables, si mortellement inattaquables, si ennuyeux. Et en fut-il jamais autrement? Qu'écrivons-nous? Que peignons-nous avec nos pinceaux chinois, nous autres mandarins, éterniseurs de choses qui peuvent s'écrire? Que sommes-nous capables de reproduire? Hélas, seulement ce qui va se faner et commence à s'éventer. Seulement des orages qui s'éloignent et s'épuisent, des sentiments ternes et tardifs. Seulement des oiseaux las de voler, égarés, qui se laissent prendre dans la main, dans notre main. Nous éternisons ce qui ne peut plus vivre ni voler très longtemps, des choses exténuées et trop mûres. Et ce n'est que pour votre après-midi, ô mes pensées écrites et peintes, que je possède des couleurs, beaucoup de couleurs peut-être, beaucoup de teintes délicates, 50 jaunes, brun, vert, rouge. Mais nul à vous voir ne devinera votre éclat matinal, étincelle subite et merveilleuse de ma solitude, mes vieilles, mes chères, mes mauvaises pensées. Et on est là, me semble-t-il, avec ce passage de Baudelaire et avec l'image d'un temps qui mange la vie et de l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, dans la position de celui qui... au fond, n'écrit que pour ne pas avoir à se dire un jour qu'il a écrit, ne vit que pour ne pas avoir un jour à se dire qu'il a vécu. On est dans la position d'un homme qui voudrait être le contemporain de lui-même et que, au fond, et qui en est réduit par les hasards de l'existence, par l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d'être et de savoir en même temps, eh bien, puisque ce que nous sommes, nous ne le savons pas, ce que nous savons, nous ne le sommes plus, cette impossibilité-là impose d'écrire au terme de la vie. D'écrire après coup, ce sont les pensées de l'après-midi. Et que reste-t-il d'une pensée de sa vivacité matinale quand on l'écrit dans l'après-midi, c'est-à-dire quand elle n'est plus qu'un objet rétrospectif? C'est paradoxal, c'est comme si ordonner sa vie était une manière d'être le bourreau de soi-même.
Oui, mais avant peut-être de parler de ce bourreau de soi-même, ce que vous avez dit m'a fait penser à cette distinction qu'il y a entre le temps de l'art et le temps de la vie. et qui est présent donc chez Baudelaire, par exemple, dans Le Guignon. L'art est long et le temps est court, c'est ça ?
Oui, l'art est long et le temps est court, absolument. C'est une citation d'Hippocrate. On l'a citée, d'ailleurs.
Et on l'a citée dans une émission sur Sénèque.
Oui, bon, on va l'entendre, Le Guignon, hein. Georges, s'il te plaît. Le Guignon, on l'avait pas prévu, mais c'est pas grave, allons-y. L'art est long et le temps est court. On trouve ça à peu près, à peu de mots près, dans Le Guignon. Écoutez.
Pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, vers un cimetière isolé, mon cœur, comme un tambour voilé, va battant des marches funèbres. Main joyau d'or enseveli dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes. Mainte fleur épanche à regret son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes.
Oui, c'est donc peut-être rappeler ce qu'on avait dit sur Sénèque lorsqu'on avait. Parce que ce n'est pas exactement le même propos que
tient le philosophe. Encore une fois, on va citer Sénèque. Encore une fois, l'existence est courte, non telle qu'on nous l'a mesurée, mais telle que nous l'avons faite. Nous ne sommes pas pauvres de jour, mais prodigues. La thèse de Sénèque est de dire que si la vie est brève, ça n'est pas parce qu'elle est brève, c'est parce que nous sommes dispendieux avec elle. Nous sommes dispendieux avec ce que nous sommes et avares avec ce que nous avons, ce qui est absurde. Ce qui est aussi la parole d'un homme riche, qui peut par conséquent se permettre d'être dispendieux avec ce qu'il a et avare de ce qu'il est. Mais laissons cela, le propos de Sénèque, en lui-même, en revanche, est imparable. Quand Sénèque dit à ses détracteurs qui lui reprochent d'avoir de l'argent, qui dit « mais en fait, c'est, vous êtes possédé par l'argent, moi je possède de l'argent, mais vous êtes possédé par l'argent », il dit là quelque chose de socialement douteux, si vous voulez, mais philosophiquement souhaitable pour tout homme, au fond, ne pas être possédé par l'argent. La meilleure façon de ne pas être possédé par l'argent, c'est d'être riche. Mais, et encore, c'est pas sûr. Mais en ce qui concerne Sénèque, quand on est riche et stoïcien, tout va bien, si vous voulez. Voilà, il faudrait être riche et stoïcien pour être tranquille avec l'argent. On n'en est pas là. Ce qu'il dit ici, à mon sens, renvoie au propos de Sénèque sur l'art est long et le temps est court, qui est une citation que fait Sénèque, donc citation d'Hippocrate, au début de son traité de la brièveté de la vie. Il n'y a pas que ça dans Le Guignon, il y a aussi la figure de Sisyphe. Qu'est-ce que c'est que Sisyphe ? Qui est Sisyphe ? Sisyphe, c'est le grand persévérant. C'est celui qui a le courage de ne pas espérer pour entreprendre. C'est celui qui sait que chacune de ses entreprises s'expose in fine, ultimement, quoi qu'il arrive, à une retombée, à une rechute. Et c'est intéressant parce que dire l'art est long et le temps est court, c'est une manière de montrer un décalage entre deux durées. La vie laisse peu de temps pour engendrer ce qui ne meurt pas avec elle, au fond. Et il faut un courage immense, un courage infini, pour surmonter cet abîme qui sépare l'éternité à laquelle une œuvre veut prétendre et la brièveté, la brève durée de nos vies. C'est un décalage, d'ailleurs, qu'on trouve chez Descartes quand il distingue l'infinité de la volonté de la finitude de l'entendement. Pour le coup, c'est un décalage qu'on trouve en poésie comme en philosophie, incontestablement. C'est aussi l'abîme, d'ailleurs à une autre échelle, qui permet de séparer le temps de l'action politique du temps de la communication. On voit des gens en politique qui s'entretuent pour des lois qui ne sont pas votées, ni même parfois encore écrites. Et au fond, ce que décrit Baudelaire dans Le Guignon, c'est le découragement qui s'empare de celui qui constate l'infirmité de l'individu devant l'ampleur de la tâche qu'il attend et le silence qu'il obtiendra pour seule récompense. Et il faudrait pour... alors, il y a deux méthodes pour soigner une telle douleur. Vous avez l'écriture, la poésie, qui est un démenti à la souffrance qu'elle décrit, car par l'écriture, par le style, par la façon de mettre en vers, Baudelaire surmonte l'insondable douleur qu'il décrit de cette manière et qu'il transmet, qu'il donne à sentir. Donc le geste poétique lui permet de surmonter la douleur qu'il donne à sentir par le geste même qui la surmonte. Donc ça, c'est merveilleux. Et si on est en philo, si on est de l'autre côté, du côté plus austère de la vie peut-être, pour surmonter cet abîme, ce décalage entre un art long, trop long pour nos petites vies, et un temps court, le temps dont on dispose, il faut substituer Descartes à Spinoza. Spinoza à Descartes, plus exactement. Il faut remplacer Descartes par Spinoza, substituer Spinoza à Descartes. Parce que
Que fait Spinoza? Quelle est l'éventuelle valeur ajoutée de Spinoza sur Descartes? C'est qu'au fond, Spinoza explique que la volonté, c'est une illusion de croire que notre volonté est infinie et que notre entendement est fini. Spinoza dit ceci: la volonté s'étend plus loin que l'intellect, si par intellect on entend seulement les idées claires et distinctes. Mais la volonté ne s'étend pas plus loin que les perceptions, autrement dit que la faculté de concevoir. Et par conséquent, la faculté de vouloir n'est pas plus infinie que la faculté de sentir. Pour le dire très simplement, vous avez beau rêver d'une licorne, eh bien, la licorne dont vous rêvez, qui n'existe pas, n'est jamais que la composition du cheval et de la corne, qui, eux, existent bien. Et nous ne rêvons jamais de quelque chose qui n'existe pas. La thèse de Spinoza, qui a été reprise par Hume, et la thèse consiste à dire, au fond, que notre imagination est bornée par nos perceptions. Nous ne rêvons pas au-delà de ce que nous avons perçu, c'est-à-dire conçu, en vérité. Et du coup, à partir de là, vous avez une coïncidence, si vous voulez, de la volonté et de l'entendement, ou de l'imagination et de la perception, qui permet de sortir, au fond, de l'abîme que décrit Baudelaire quand il se sent tout petit, ténu, infime, à côté de l'infini auquel son œuvre prétend. Et c'est ça qui est en jeu, je crois, dans le Guignon. C'est ce génie tout à fait particulier qui consiste à introduire un peu de durée, à marquer une coïncidence entre l'individu qui travaille, au fond, à inscrire l'individu de plein pied dans l'éternité à laquelle il prétend. Voilà.
Je vous ai lancé sur le Guignon, mais maintenant j'aimerais revenir sur ce que vous disiez juste avant, Raphaël, en parlant du bourreau de lui-même, image récurrente dans Baudelaire et qu'on retrouve, par exemple, dans un poème qu'on ne va peut-être pas entendre parce qu'on n'a pas le temps, mais que je vais essayer de dire d'un seul coup. Je n'ai jamais fait de grec, je préviens. Mm-hmm. Donc dans Eotonti morou menos, c'est ça, corrigez-moi.
Eotonti morou menos, exactement, le bourreau de soi-même. Et alors pourquoi le citez-vous, celui-là?
Oui, parce que cette image du bourreau de lui-même, des cœurs mangés, je l'ai cité parce que, notamment, on peut peut-être entendre
On va entendre, c'est pas Georges qui va le dire, c'est Jean-Louis Murat. On fait ce qu'on peut, allez-y, écoutez.
Te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière.
Pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nageoire.
Leotonti morou menos,
Leotonti morou menos, Leotonti morou menos.
Comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils souleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge.
Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord?
Leotonti morou menos,
Leotonti morou menos, Leotonti morou menos.
Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde.
Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau.
Leotonti morou menos,
Leotonti morou menos, Leotonti morou menos.
Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné et qui ne peuvent plus sourire.
Leotonti morou menos,
Leotonti morou menos,
Leotonti morou menos, Leotonti morou menos.
Voilà, donc c'était donc à l'avant-dernier quatrain que je faisais référence. Je suis la plaie et le couteau, je suis la victime et le bourreau.
Pour être tout à fait honnête, c'est Jean-Louis Murat et Morgane Imbeau qui chantent ça, et c'est assez beau d'ailleurs. Allez-y, Paola.
Oui, non mais j'ai dit ce que je voulais dire.
Pardonnez-moi, je ne vous écoutais pas.
Non. Oui, donc je parlais de la plaie et le couteau, la victime et le bourreau.
Ah oui, oui, je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Ne pas être le contemporain de sa vie, c'est-à-dire opposer le printemps
de la vie, à l'automne de l'écriture, impose peut-être ou expose à être le bourreau de soi-même. C'est une image qui revient fréquemment chez Baudelaire et qui n'est pas sans rapport avec l'idée de l'intime, cet autre que l'on porte en soi et qui peut alternativement féconder l'œuvre ou bien nous manger le cœur. Parce que c'est très fréquent, ça, chez Baudelaire. Les images du cœur mangé sont très fréquentes. Dans Causerie, par exemple, alors, c'est un texte hilarant parce que ce qui est hilarant, c'est le décalage entre le titre Causerie, pas, on dirait Mendès France à la radio, et le poème lui-même. Mon cœur est un palais flétri par la cohue, on s'y saoule, on s'y tue, on s'y prend aux cheveux, un parfum nage autour de votre gorge nue. Ô beauté, dur fléau des âmes, tu le veux, avec tes yeux de feu brillants comme des fêtes, calcine ces lambeaux qu'ont épargné les bêtes. Et juste avant, il dit, ne cherchez plus mon cœur, les bêtes l'ont mangé. Et le texte s'appelle Causerie. Bon. Et c'est une image qui revient en permanence. Il dit dans est-ce que c'est dans Bénédiction, je ne sais plus, il dit souvent, je mange mon cœur. Non, c'est dans Bénédiction, il dit, et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin, comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein. Et puis il y a Réversibilité, que Jean-Louis Murat chante aussi d'ailleurs. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Le cœur de Baudelaire, qu'on dévore ou qui se dévore lui-même, a incontestablement ses raisons que la raison, c'est-à-dire l'ordonnancement pratique de l'existence entre le temps vécu et le temps de l'écriture, eh bien que la raison ne connaît pas.
Voilà, et on a pu dire que Baudelaire était à la poésie ce que Pascal était à la philosophie. Et
à bon droit, peut-être.
Voilà, et on avait parlé, quand on avait parlé de Pascal, on avait cité un poème de Baudelaire.
Il faut rappeler que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas est une phrase de Pascal. Hein.
Oui, bien sûr. Mm. Et on avait cité Pascal avait son gouffre avec lui se mouvant, et on avait fini.
Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve, parole, ouais. Et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur, je sens passer le vent.
Et souvenez-vous qu'on avait fini. Je peux pas continuer pour vous.
Pardon.
Mais on avait fini sur ce dernier vers assez mystérieux. Ne jamais sortir des nombres et des êtres.
Oui, mais alors avant d'en venir là, puisque vous évoquez Pascal, l'une des images qui revient le plus souvent dans les Fleurs du Mal, je le dis ici uniquement pour le dire. Et je vous laisse le soin d'y voir ou d'y entendre ce que vous voulez, mais c'est important de le dire parce qu'on aurait quand même le sentiment de mentir par omission si on ne le disait pas. C'est l'image du gouffre. Dans l'Albatros, on l'a entendu tout à l'heure, hein, le navire voguant sur les gouffres amers. De la même manière, au début de La mer, justement, homme libre, toujours tu chériras la mer, la mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Le gouffre est constamment évoqué chez Baudelaire, constamment évoqué. La mer en offre une image adéquate, mais c'est un gouffre qui est évoqué. Alors là, on est vraiment chez Pascal, et Baudelaire délivre des pensées. Alors, les pensées sont un texte presque poétique, tant c'est bien écrit, et tant il est difficile de se réfugier derrière un jargon pour faire semblant de ne pas comprendre les pensées. Mais Baudelaire en délivre une formule plus classique, plus pure, peut-être plus musicale, mais l'intuition pascalienne du gouffre sur lequel nous marchons, ou du précipice qui nous attend, vers lequel nous nous précipitons, donc c'est le cas de le dire, après avoir mis quelque chose devant nos yeux pour nous empêcher de le voir, cette intuition-là, elle est mise en rime, elle est mise en forme par Baudelaire, et Baudelaire y ajoute l'hypothèse de la tentation, c'est-à-dire l'idée d'un gouffre attirant. Je ne sais plus où il le dit, c'est dommage, mais il décrit également le gouffre comme un principe d'attraction. Et alors, vous avez cité le dernier vers, rappelons, hein, « Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres », c'est le dernier vers du poème qui s'appelle « Le gouffre », et dont on ne sait pas, dont on n'a jamais su, et nos auditeurs d'ailleurs se sont emparés de cette question brillamment, dont on n'a jamais su si c'était un regret ou un espoir. Il faudrait ne jamais sortir des nombres et des êtres, ou bien, ah, quel dommage de ne jamais sortir des nombres et des êtres. Et c'est tout à fait indécis. Et cet équivoque-là est plus riche de sens que toute interprétation univoque ou unilatérale du propos de Baudelaire. Il y a ici quelque chose, à mon avis, d'essentiel dans ce regret ou désir, c'est une équivoque qu'il faut maintenir.
Voilà. Il faut maintenir, il faut essayer de ne pas résoudre cette question dans l'œuvre de Baudelaire.
Oui, enfin, la poésie, a fortiori celle de Baudelaire, ne cherche pas à résoudre les mystères, évidemment. Mais il y a un autre mystère, c'est le mystère du nombre d'or.
Ah oui, c'est le serpent qui
danse. Peut-être le seul nombre que Baudelaire peut supporter, puisqu'il a horreur des chiffres.
Effectivement. Alors, s'il a horreur des chiffres, si on le lit comme ça, le seul nombre qu'il peut supporter, c'est le nombre d'or. Écoutez.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots breux et blins. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant, et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Juste un mot là-dessus, parce qu'on s'approche vraiment du terme de cette émission et il faut qu'on finisse à l'heure, mais vous aurez observé, Paola, que les octosyllabes et les pentasyllabes se succèdent là-dedans. 8, 5, 8, 5, 8, 5. Or, 8 sur 5, c'est le nombre d'or. C'est le nombre d'or, ce qu'on a appelé la divine proportion. C'est-à-dire, très concrètement, je le dis ici très, très rapidement, en plus je suis désolé, c'est l'unique rapport entre deux longueurs A et B, tel que le rapport de la somme des deux longueurs sur la plus grande des deux soit égal au rapport de la plus grande sur la plus petite. Pour le dire très simplement, A plus B sur A égale A sur B. Et ça fait que A fait 8 et B fait 5, et que le nombre d'or fait à peu près 1,6. Et ce qui est intéressant, on n'a pas du tout le temps de s'étendre là-dessus, c'est que certains ont vu, et depuis des siècles, ça traverse l'histoire de l'art, dans le nombre d'or un système, une clé pour la compréhension de nombreux domaines artistiques, comme l'architecture, la peinture, la musique, scientifique, la biologie, l'anatomie, je veux dire, mais surtout c'est un nombre qui exprime la tentation de quantifier le beau. Alors, il ne nous appartient pas et nous n'avons pas le temps ici de rentrer dans ce débat décisif, mais voici la meilleure réponse qu'on peut apporter à ce débat, auquel il manquait un élément fondamental qui était la bossa nova.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
Merci Paola, on s'arrête là pour aujourd'hui. On reparlera souvent de Baudelaire dans cette émission, ne serait-ce que pour dire en une phrase ou un vers qu'on met parfois une heure, sinon une vie, à formuler.
Où se mêle l'or avec le fer, à te voir marcher en cadence, belle d'abandon. On dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton.
Allez, c'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. Merci à Gilles Davidas. Vous pouvez l'applaudir, notre réalisateur. Il a beaucoup travaillé. À Pierre Mine et Patrice Klein, à la technique. On est au Théâtre du Rond-Point qui accueille France Culture dans le cadre de ce week-end Mauvais Genre, où l'on vous parle de paresse, de saphisme, d'alcool, d'envie, d'onanisme et de nudité. Quoi de mieux pour un dimanche? Portez-vous bien. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission sur la question du mal chez Plotin. Du mal, c'est-à-dire de la matière.
Et retrouvez-nous dans l'intervalle sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements et bibliographies, ou sur Facebook, où vous attend rigoureusement la même chose. Retrouvez aussi les nouveaux chemins de la connaissance, qui, toute la semaine, vous parleront du seul discours de métaphysique de Leibniz, un drôle de texte, l'un des plus clairs peut-être de Leibniz, mais aussi des plus profonds, les nouveaux chemins de la connaissance, la philosophie inventive et Adèle Van Rett, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h sur France Culture. Les 17h et quelques secondes sur France Culture. Merci à tous, merci de votre présence. Dans un instant, à l'IRBI du côté de chez soi.